Bonjour, ici Radio Grand Ciel. Nous recevons aujourd'hui donc Madame de la Motte Saint-Pierre du château de Montigny-le-Vianelon et Anne Rousset qui anime donc cette saison du château. Merci d'être venu. Vous allez nous parler un petit peu du déroulement de cette saison et évidemment des projets que vous avez pour les jours, les semaines et les mois à venir.
Absolument.
Voilà, donc nous vous laissons la parole. Où en êtes-vous aujourd'hui au château de Montigny?
Alors au château de Montigny, actuellement, vous pouvez découvrir une très belle exposition sur les automates artistiques d'Alain Ribi, qui a, je pense, conquis petits et grands pendant l'été, puisque nous avons relancé l'attractivité du château depuis le 7 avril de cette année. Et nous avons le plaisir d'avoir accueilli un nombre important de visiteurs durant cette saison. Et nous continuons sur notre lancée pour cette rentrée, avec des ateliers pédagogiques qui seront proposés aux écoles en local comme jusqu'en région parisienne, ainsi qu'une présentation du parc du château dans cette saison qui est en train d'évoluer et de changer de couleur. Et puis nous gardons l'espoir de pérenniser l'exposition jusqu'à la fin de l'année, donc avec des opérations qui sensibiliseront le public, notamment pendant les Journées européennes du patrimoine.
Justement, est-ce que, donc pour le patrimoine, je crois savoir que vous aurez une visite nocturne, je crois?
Absolument. Alors en fait, en journée, vous pourrez découvrir l'exposition sur les automates artistiques qui se tient dans le château. Et en nocturne, nous avons la chance d'avoir un peintre local, M. Estevez, qui fait une mise en couleur de notre parc et des essences de bois. Et donc, vous aurez une exposition nocturne dans le parc à 20h et 21h les vendredis, à 21h le samedi et à 20h et peut-être 21h selon les réservations le dimanche, qui permettra en fait aux visiteurs d'appréhender ce parc autrement, en nocturne, avec une projection de toiles qui seront installées dans le bois avec un dialogue en fait entre la nature et la vision du peintre.
Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vous avez des éclairages. Ce château magnifiquement éclairé.
Absolument.
On a toujours parlé des sons-lumière. Oui. Je me souviens du premier éclairage du château de Montigny. Donc je m'en souviens. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on a revu depuis, lors de visites, les nouveaux éclairages. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, moi. De ces éclairages vus du pied du château, de l'autre côté du Loir au Balassière, c'est absolument superbe.
Avec la réverbération dans l'eau.
Tout à fait, c'est absolument superbe. Et je dis, mais je suis quelquefois surpris de ne pas voir des gens au Balassière de nuit pour admirer ce château. Comment vous expliquez ça?
Oh, parce que je pense que maintenant, ils sont habitués depuis le temps. Parce que ça fait quand même plus de 30 ans. Mmh. Et déjà, mon oncle avait fait un premier essai d'éclairage. Et mes parents l'ont pérennisé après, ce qui leur a valu d'ailleurs le deuxième prix du meilleur éclairage national. Alors le premier, c'était le pont du Gard. Évidemment, nous n'avions pas les mêmes moyens.
Oui, mais il est certain, comme j'ai fait visiter quelquefois des gens de Loire dans les veillées, et faire un crochet repasser en venant par les longères, on retraverse le pont et on va devant les baissières et on passe un moment extrêmement agréable devant ces éclairages. Quoi.
Ah ben, c'était éclairé ce week-end parce que nous avions un mariage et nous avions un baptême hier et ils sont allés exprès le samedi soir pour voir l'éclairage du château.
Donc justement, vous avez des atouts considérables sur Montigny, considérables. Vous êtes en train de redorer le blason, pour dire.
On peut dire ça comme ça, oui.
On pourrait dire, on va pas dire redorer le blason des moments en syllabale, parce qu'il est tellement important ce blason, qu'on pourrait pas dire ça.
Oh, les Lévi-Mirepoix aussi.
Bon, donc, il y a un certain nombre de choses qui se produisent actuellement. Vous avez vu donc déjà donc un nombre grandissant donc de visiteurs cette année. Est-ce que ce sont les visiteurs de la région ou est-ce que vous êtes beaucoup plus large? Est-ce qu'on arrive à capter, par exemple, l'attention des visiteurs parisiens ou étrangers?
Alors, étrangers, oui, beaucoup de Hollandais, quelques Anglais, mais il y a beaucoup moins d'Américains qu'il y en avait autrefois, ça c'est dommage. Et par contre, l'Orléanais, ça marche très bien, Chartres aussi, Blois aussi, mais cette année, beaucoup, beaucoup de locaux également, ce que nous n'avions plus. Donc ça, c'est quand même une bonne chose également, parce que les gens, visiblement, s'intéressent quand même à leur patrimoine.
Alors, nous sommes dans le cadre des 500 ans de la Renaissance. La région centre, donc, s'est investie sur un certain nombre de grands châteaux. Et est-ce qu'elle s'est investie pour le château de Montigny ?
Alors, pas vraiment, parce que je pense qu'on s'y est pris un peu tard, parce que je ne me sentais pas capable de faire ça toute seule, avec mon mari. Et depuis que nous avons rencontré Madame Rousset, on s'est décidé un petit peu tard, voilà. C'est un peu de notre faute.
Mais sinon, comment vous avez été accueilli dans le... Est-ce que vous avez réussi à intégrer le programme des 500 ans ouais ?
Non, ouais. Parce que c'était déjà quasiment fait avant. C'était déjà quasiment fait avant, et on s'y est pris au mois de mars, et c'était un peu tard.
Mais pour autant, nous avons eu la chance d'avoir des partenaires et des relais et des mécènes qui nous ont soutenus dans notre initiative.
Tout à fait.
Donc la région centre, évidemment, est sensibilisée à notre action, mais le département a été partie prenante à nos côtés pour soutenir cette action. De même que l'entreprise Vorwerk, qui est à nos portes, qui est un partenaire que nous choyons. Et puis d'autres personnes qui, parfois de manière plus modique ou de façon anonyme, ont souhaité être associées et nous soutenir aussi dans les actions de mécénat. Donc, et puis récemment, nous avons eu le plaisir d'être soutenus par la banque Crédit Agricole, donc, qui dynamise également à travers une communication sur ses agences et auprès de ses clients. Les actions que nous portons, donc voilà, le territoire s'éveille à nos côtés.
Oui, parce que il y a le château, mais en fin de compte, il y a tout le village autour. Donc,
absolument, on a un très bon relais au niveau des habitants, des commerçants de Cloix, que je remercie parce que vraiment, ils ont été tout de suite réactifs lorsque je suis venue vers eux. De même, évidemment, que les offices de tourisme, alors Cloix en priorité, mais jusqu'à Chartres, qui nous soutiennent également et qui participent à notre communication et font le relais de nos flyers, de nos affiches. Nous avons un site Instagram qui a été créé récemment, Domaine de Montigny, Le Ganelon, qui présente justement le panel et la richesse de ce monument, puisque vous avez la possibilité de découvrir l'histoire du lieu, son architecture, l'exposition sur l'art des automates qui illustre le thème de la Renaissance cette année, et puis également la découverte de ce parc magnifique et de ce bois de 13 hectares avec de nouvelles activités qui se préparent, notamment une visite qui aura lieu à partir du dimanche à 10h par un paysagiste professionnel qui, donc pour réservation, vous pouvez contacter le 02 37 45 21, 02 37 45 65 21, qui est notre billetterie boutique. Et vous aurez la possibilité de découvrir ce parc et les essences qui constituent la richesse végétale du lieu.
Oui, parce que le domaine de Montigny, en réalité, ne se limite pas au château. Vous allez quand même très loin, jusque les fermes du Fourni, etc. Tout ça fait partie du domaine.
Tout à fait.
C'est quand même très étendu, non ?
Jusque Saint-Hilaire et jusqu'à Cloix. Oui. Montigny, Saint-Hilaire et Cloix.
Alors, c'est pas une discrétion, mais combien d'hectares, alors, sur ce domaine ?
Pas mal.
Pas mal. Pas mal. Donc, oui, parce que quand on parle du château de Montigny, c'est un peu le château de Cloix, le château de Montigny.
Ah non.
Non, parce que à une époque, je le dis parce que...
Château de Montigny à Cloix sur le Loir, Cloix les Trois-Rivières, si vous voulez, mais le château de Montigny, ça ne sera jamais le château de Cloix.
Le seigneur de Montigny rendait la justice dans le haut de la rue Montgreffier.
Absolument.
Voilà. Donc justement, il étendait un petit peu, Cloix faisait un peu partie de Montigny.
Oui, mais pour autant, je vous rejoins sur le fait qu'il y a un véritable attachement des habitants de Cloix et des locaux, oui, vis-à-vis de ce château. Ils sont ravis de voir qu'on met des choses en place. Ils ont envie de nous accompagner, de nous soutenir, et c'est un soutien précieux. Oui,
c'est pour ça que c'est important, parce que les gens de la région sont très attachés. Lorsqu'on vient de Châteaudun, quand on fait attention, il y a un petit... un petit tour à droite pour aller à Auteuil, dans cette zone. On voit le château, dans le fond, quand on le sait.
Tout à fait.
Et c'est absolument.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On le sait, les locaux sont nos meilleurs ambassadeurs en général, parce que lorsqu'ils reçoivent de la famille, des amis, lorsqu'ils sont en déplacement et qu'on parle patrimoine, surtout dans la période où nous sommes en septembre, qui est une période plutôt faste, entre les lotos du patrimoine, entre les journées européennes qui s'inscrivent sur tous les territoires. Donc je suis contente cette année que le château de Montigny-le-Ganelon soit dans cette dynamique et nous allons tout faire pour continuer sur cette lancée.
Alors pourquoi, je m'interroge, pourquoi la Sainte Félicité, qui était une fête très importante pour le bourg de Montigny, quoi, et pour toute la région de Ploie, est un petit peu disparu, quoi.
Parce que les gens venaient quand même de moins en moins, qu'ils avaient tendance simplement à sortir une chaise et à regarder passer Sainte Félicité, mais ne jouaient pas le jeu. Donc on a été contraint d'arrêter. Mais par contre, je pense que je l'avais fait il y a maintenant une dizaine d'années. On avait ramené la chasse sur la pelouse du château et on l'avait ramené en procession dans l'église. Et ça, je le referais volontiers. Mais le manque de prêtres joue beaucoup également pour cela.
Oui, parce que moi j'ai encore assis quelques années au millième du Saint-Cordon dans le Nord à Valenciennes. Hein. Et donc c'était quelque chose d'absolument fabuleux. Il y a eu une messe où il y avait en plein air, où il y avait 3000 personnes. C'était absolument fabuleux. Et donc de retrouver des traditions un petit peu.
Oui, mais le manque de prêtres fait qu'ils n'ont plus le temps de faire cela. C'est ça qui est un gros souci pour nous.
Ah oui. Donc, il est bien certain qu'il y a encore aujourd'hui des filons à exploiter.
Absolument, absolument.
Eh bien, nous allons écouter une petite musique. Alors donc, nous sommes déjà début septembre, mais la saison n'est pas finie. Nous savons très bien que les automnes sont particuliers dans la forêt de Montigny, donc avec toutes ces couleurs. Et puis, donc, cela, autour du château donne un autre panorama. On ne le voit jamais avec le même regard au printemps, à l'été, à l'automne. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à l'automne?
Alors, à l'automne, nous allons ouvrir donc le parc aux visiteurs avec une visite accompagnée. Grâce au savoir-faire d'un paysagiste professionnel, Jérôme Petit. Donc la première date sera pour le lancement le dimanche des Journées du patrimoine à 10h. Donc n'hésitez pas à réserver. Je redonne le numéro si vous me le permettez, 02 37 45 65 21, ou de vous rendre sur le site internet de notre monument. Et puis une autre date, le 27 septembre, un vendredi donc à 10h, la plus tournée vers les scolaires qui le souhaitent ou vers les groupes qui veulent se greffer, sachant qu'on accueille jusqu'à 25 personnes pour cette découverte. Des ateliers pédagogiques en préparation également, puisque le but étant d'ouvrir nos portes de manière plus large aux écoles, aux scolaires et d'accompagner aussi les enseignants. On le sait, lorsque les enfants étudient l'histoire sur les bancs des cours, ils aiment bien venir toucher du doigt l'univers réel qui est le nôtre à Montigny, puisqu'on a en plus la chance d'avoir encore des copropriétaires qui vivent dans ces lieux. Donc ça donne encore une dynamique et une proximité plus forte. Et ça permet aux enfants comme aux adultes d'ailleurs de s'approprier davantage le lieu. Et puis nous aurons donc les journées européennes du patrimoine avec la découverte des automates en nos murs. Ceux qui viendront en journée pourront bénéficier d'un tarif promotionnel le soir pour la découverte de l'exposition nocturne « Grandeur nature ». donc qui est donc le dialogue dont je vous parlais à l'instant dans ce parc, avec une exposition nocturne sur un peu plus de 400 à 500 mètres d'un circuit nocturne mis en lumière entre dialogue entre nature et peinture, avec la présence du peintre évidemment qui pourra répondre aux questions qui lui seraient posées et partager un peu cette performance avec le public, ce qui est une nouveauté.
Alors justement, vous parlez de peinture. Hein. Je crois dans la dernière émission que nous avons fait ensemble, je vous parlais, il y a un village qui s'appelle Saint-Paul-de-Vence, il y a des peintres, des choses, etc. Mais un village comme Montignon peut avoir des peintres dans les rues, ça peut attirer du monde, ça peut... Est-ce que, par exemple, quand on attire du monde sur Montigny, quand on fait, par exemple, une brocante à Montigny, est-ce que, par ricochet, il se passe quelque chose au château ?
Bien sûr. Surtout l'année prochaine. Mais
Oui, mais pour l'instant, c'était un petit peu en sommeil aussi, parce que, malheureusement, comme ils ferment le pont des deux côtés, les gens ne savent plus comment accéder à Montigny.
Ah,
et
oui.
Quand le pont était ouvert, on a eu jusqu'à 700-800 personnes le même jour. Quand il a été à sens unique, on a baissé de moitié. Et maintenant qu'il est fermé des deux côtés, ben c'est complètement différent, parce que les gens ne savent pas par où arriver. Alors ils viennent se garer chez nous pour aller à la brocante. Mais ils ne viennent pas au château.
Mais vous n'êtes pas concerté sur une organisation comme ça ?
C'est pas moi qui prends des décisions, c'est le maire de Montigny et le maire de Cloyes. Les Trois-Rivières, qui prennent la décision de faire un arrêté. Et donc, ça nous a beaucoup, beaucoup fait perdre de clients.
Mais cette année, il y a eu justement une évolution dans ce domaine, puisque la mairie de Cloyes, en concertation avec celle de Montigny, a mis en place un circuit dédié pour permettre aux visiteurs de trouver plus facilement le château. Donc, on est sur une évolution aussi dans ce contexte-là. Mais voilà, c'est en faisant les choses que l'on avance. Donc, l'année prochaine... Effectivement, moi, mon vœu, et je pense que Mme Lamothe Saint-Pierre me soutient dans les initiatives que j'ai bien voulu mettre en place cette année, et je l'en remercie. La confiance est essentielle dans ce genre de choses, et l'année prochaine, on a évidemment pour vœu d'ouvrir le château à une découverte plus large, et notamment au niveau des associations. Je l'avais fait par le passé dans mes précédentes fonctions, et je sais que ça fonctionne bien, et lorsque les peintres peuvent s'approprier un patrimoine, ils le font vivre encore mieux.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de traditions. Bon, Mme Saint-Pierre ne va pas en contredire. Elle a dans sa famille, je crois, des gens qui sont très intéressés par la chasse. Mmh. Et donc, les châteaux et la chasse ont toujours été quand même une relation particulière.
Absolument.
Et puis, moi, j'ai vu quelquefois, à l'automne, le soir, à la chapelle à Chambord, des sonneurs à la tombée de la nuit.
C'est
extraordinaire. Et je crois savoir, Mme Saint-Pierre, que vous connaissez des sonneurs.
Oui, oui, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup.
Donc c'est vrai que vous avez vraiment un filon extraordinaire avec ce château de Montigny.
C'est un potentiel fantastique.
Il y a un potentiel fantastique.
C'est un beau cadeau. Quand on peut le faire évoluer comme on a envie de le faire, c'est vrai que c'est un magnifique cadeau, et avec des perspectives qui sont, j'allais dire, sans fin. Je pense qu'il y en a toujours, mais le but étant de pouvoir justement le sublimer. Et ça passe par... un panel assez large. On parlait à l'instant de la peinture, mais vous avez aussi le tir à l'arc, puisqu'on va accueillir entre le 9 et le 17 novembre une exposition qui s'appelle Archétypes, et qui permettra justement de mettre en valeur, dans le cadre des concours qui se tiendront au sein du monument, le tir à l'arc à l'honneur.
Vous avez de la chance, Anne, comme Madame Saint-Pierre, vous avez confié un diamant pareil, parce que va falloir le tailler, le polir. C'est là que vous avez un travail intéressant. Mais vous avez le diamant. Donc c'est
absolument
quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quand même.
Ah oui, c'est une vraie chance, en effet.
Mais nous avons aussi la chance d'avoir d'excellents guides. Nous avons eu un jeune pendant le mois d'août, et nous en avons un de façon pérenne. Et quand on voit l'évolution du livre d'or, c'est absolument extraordinaire. Moi, c'est un plaisir pour moi de lire tous les soirs ce qui a été écrit sur le livre d'or. C'est une véritable merveille.
Alors, j'avais, il y a quelques années, rencontré quelqu'un des Monuments Nationaux à Cloyes, par hasard. Il cherchait les traces de Zola. Et nous avons échangé avec... Il y avait un car qui était sur la place de Cloyes. Et nous avons échangé, et le guide m'a dit, mais vous avez quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous avez... de parcours. Là, vous avez un château au-dessus. Mais pourquoi tout cela ? Ah, j'ai, vous savez, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué, mais en même temps, on était quand même arrivé à 22 000 visiteurs. C'est un accident dramatique familial qui a fait qu'on a beaucoup chuté. Mais bon, maintenant, il faut relancer l'affaire pour qu'elle puisse être transmise plus tard.
Donc ce sont les objectifs que vous avez confiés à Mme Broussier pour l'année prochaine. 22 000, c'est ça, la barre est à 22 000.
La barre minimum.
Ah, ça a encore augmenté.
Ah, vous savez...
Non, mais je relève le défi, je ne boude pas mon plaisir.
Et justement, il y a notamment du balcon de Montigny, là, on a un panorama absolument...
Ah, extraordinaire. Absolument
extraordinaire.
Extraordinaire, oui, oui.
Et là non plus, on n'en parle pas. Il y a plein de choses dont on ne parle pas. Bon, si on parle de Montigny, on parle de Mavré-Camier, mais bon, on parle... On associe, mais il y a tellement de choses...
On cherche toujours la Roserie-Camier. Si quelqu'un en a chez lui, je suis preneur immédiatement.
Vous avez un pépiniériste, un paysagiste.
Qu'est-ce qu'il
va faire, ce paysagiste-là, alors Montigny, là.
Il va surtout présenter au public les essences qui sont présentes dans ce parc et qui, je pense, vont surprendre petits et grands avec une brochure adaptée où les enfants pourront s'approprier justement et découvrir la manière dont on calcule l'âge d'un arbre, par exemple, ou la gestion d'un bois. Aujourd'hui, à quoi ça sert de gérer un bois? Ça a beaucoup d'incidence. C'est tous ces aspects-là qui vont être présentés au public de manière large à partir de cette année en test et l'année prochaine de manière pérenne.
Donc, nous avons à avoir une fin de saison assez chargée.
Je pense.
Quel est votre objectif pour cette année quantitativement?
Oh, je ne vais pas m'aventurer à vous donner un chiffre. Nous ferons, parce que c'est un travail d'équipe, Madame de Saint-Pierre l'a souligné à l'instant, nous ferons le maximum jusqu'à la fin de l'année et j'espère avec de belles surprises à venir si vous me tendez de nouveau le micro d'ici décembre.
Oui, parce que la fin de l'année, ça peut être un autre atout aussi. On ne parle pas des hivers au château, mais quand même, ça peut exister un hiver au château.
Le gros risque, c'est la neige, parce qu'on a quand même une pente à 12 degrés. Et il nous est arrivé d'être coincé en haut.
Ah oui.
Alors prendre un réveillon ou prendre des risques pareils, regardez en 99, la tempête que nous avons eue quelques jours avant le 31 décembre, et là nous avions 400 personnes attendues. Et toutes les vitres du manège ont explosé, certains faîtages de l'orangerie et du manège aussi, et nous avons eu 3 jours pour tout remettre en ordre. Donc le risque est quand même là.
Oh, nous n'avons pas tous les ans des grandes tempêtes.
Non, mais vous pouvez avoir de la neige. Et si le traiteur ne peut pas monter, si les voitures ne peuvent pas monter, nous on ne peut pas descendre, mais les clients ne peuvent pas monter.
C'est merveilleux un Noël sous la neige.
oui, à condition d'avoir un accès possible. Il n'y a pas encore de funiculaire, donc il faut quand même...
Ah, vous venez de soulever une idée.
Alors donc, ce château, on peut y accéder tous les jours.
Sauf le lundi. Voilà.
Donc, tous les monuments d'État sont fermés le mardi, nous, on a préféré fermer le lundi, de façon à également pouvoir donner une possibilité aux personnes qui ne peuvent pas visiter autre chose de venir à la maison.
Et est-ce qu'on peut, question Est-ce que les gens en mobilité réduite peuvent visiter le château? Est-ce qu'il y a des accès pour
nous, absolument, et nous avons les quatre logos. C'est-à-dire handicapés physiques, mentaux, malvoyants, malentendants, fauteuils roulants, tout est accessible.
Donc, il n'y a pas de restriction, tout le monde peut visiter.
Il n'y a aucune restriction, et nous avons deux petites golfettes pour même simplement quelqu'un qui a une canne et qui marche mal, pouvoir l'amener jusque devant le château. Et si elle me dit « Non, mais je peux très bien marcher », je dis « Non, je préfère que vous gardiez vos forces pour l'intérieur que pour vous promener comme ça. »
Donc le parking n'est pas très loin de...
Le parking est à peu près à 200 mètres, enfin la grille est à 200 mètres du château. Mais pour quelqu'un qui marche mal, je promène avec la golfette.
D'accord. Donc de ce côté, il n'y a pas de problème, on peut visiter tous les jours, oui. Tout le monde peut y aller.
De 10h à 17h30, le monument est ouvert, dernier accès à 17h. Le tarif pour les adultes est de 9€ pour la visite qui est commentée. Donc les horaires des visites sont 10h, 11h30, 14h, 15h30 et dernier accès 17h et dernière visite également. Et ensuite, vous avez des tarifs groupe, puisque sur réservation, vous avez possibilité de visiter le château en groupe pour 7€ par personne.
Ainsi qu'avec le pass.
Et également avec le pass qui est le pass du Noix que nous portons en lien avec les autres acteurs du territoire. 4€ pour les enfants à partir de 6 ans, sachant que c'est gratuit pour les tout-petits. Et puis la visite libre du parc est à 3€. Et maintenant, notre nouveauté avec cette visite qui s'annonce, qui sera de 7€ pour les adultes et de 4€ pour les enfants pour découvrir le parc en visite commentée.
Et est-ce que vous avez des journées qu'on appelle pompeusement portes ouvertes où justement on donne un coup d'éclairage particulier pour faire venir du monde? Est-ce que vous avez ce genre de...
Alors c'est très difficile de faire porte ouverte parce que c'est ce que j'explique aux gens et aux visiteurs lors du week-end du patrimoine. C'est si vous allez visiter Châteaudun ou Chambord ou un monument d'État, vous payez le personnel au travers de la gratuité. Donc vous le payez dans vos impôts. Alors que nous, ce jour-là, nous prenons davantage de monde pour ne pas faire attendre trop longtemps, mais c'est nous qui payons. Donc c'est pour ça que nous, on ne peut pas faire la gratuité.
Oui, vous pouvez les appeler des journées du château.
Oui, mais oui. Enfin, bon, c'est pour ça qu'on a changé le nom, ça ne s'appelle plus Porte Ouverte, mais que ça s'appelle les journées du patrimoine.
Voilà. De façon à mettre l'accent sur nos richesses donc régionales et locales, quoi. De façon à mettre des éclairages à un jour donné sur ces richesses, parce que de susciter l'envie d'aller voir justement ces choses. Il y a des gens qui pourraient le faire, mais qui en réalité le font pas parce que bon, on n'a pas mis l'éclairage au bon moment, ils ne savent pas trop quoi faire un week-end, ils pourraient y aller, et puis tiens, il y a une journée au château de Montigny, pourquoi pas. Donc vous voyez ce genre d'éclairage. Donc,
absolument. Hein,
donc vous avez...
Mais je pense qu'il faut éclairer effectivement le vendredi soir ou le samedi soir, de façon à ce que les gens aient envie de venir le lendemain.
Ils ont envie, voilà.
Tout à fait. Voilà.
Mais alors ce qui est extraordinaire, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a une trentaine d'années qui est éclairé, et je suis sûr qu'il y a encore des gens de la région qui ne savent pas.
Oui. Ah, c'est absolument certain. Absolument certain.
Ça fait partie des retours que nous avons. Les gens, en fait, redécouvrent aujourd'hui ce monument en disant « Oh là là, c'est vrai qu'on savait qu'il existait, mais on ne l'avait jamais visité ou on ignorait qu'il était ouvert. » Donc voilà, l'idée aussi, c'est de, à travers nos animations, nos événementiels, et je souligne quand même un partenariat, puisque je parlais du département tout à l'heure, le 3 octobre prochain, à 20h, nous avons Ève Ruggieri qui viendra animer une conférence dans le manège du château à 20h. Donc c'est sur réservation auprès du site internet du département qui mettra à l'honneur Monsieur Pavarotti, qui était un proche d'Ève Ruggieri. Et donc dans ce contexte, nous allons là aussi ouvrir sur un volet culturel, musical, et donc nous en sommes ravis.
Nous vous remercions, Madame Sever. Anne, nous vous remercions d'être venue nous parler du château de Montigny. Merci.
Merci à vous.